Bonjour, aujourd'hui au lycée Édouard Branly, nous recevons 4 témoignages des anciens combattants de la FNACA. Nous leur avons demandé, après avoir parlé chacun dans leur groupe, de venir au studio radio avec des élèves. Nous avons choisi 3 sons différents et nous leur avons demandé de réagir.
Bon, pour nous, à l'époque, être déserteur, c'était pas une gloire. Hein. En règle générale, surtout dans les familles, si un enfant refusait de faire le service militaire, qui n'était pas nécessairement la guerre, c'était plus une tâche qu'une gloriole. Hein. Alors effectivement, on peut être contre la guerre. Tout le monde est contre la guerre. Moi, personnellement, je suis contre la guerre. Mais malheureusement, en certaines occasions, on est embarqué dans une situation telle que on ne peut pas faire autrement que de partir à la guerre. Mais je, personnellement, oui, j'ai quand même du respect pour ceux qui ne veulent pas faire la guerre. Mais je ne peux pas non plus glorifier quelqu'un qui se recommande comme déserteur.
Et pour... Le plus bel exemple actuellement, c'est l'Ukraine. Hein
oui.
Donc mettez-vous à la place des Ukrainiens. Oui.
J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent, bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai
ouais. Jadis. Oui, non, là, c'est Jean-Claude, oui. Enrico Macias.
Bah oui, oui. On l'a vécu. On a vu les.
Bon, oui, vas-y.
Disons que, forcément, il faut se mettre à la place de tous ces gens qui ont été rapatriés dans des conditions épouvantables. Bon, lui, s'en est très, très bien sorti. Il n'aurait même pas eu cette évolution s'il était resté là-bas, hein, puisqu'il était instituteur. Mais beaucoup d'autres gens, eux, n'ont jamais récupéré, en fait, ce qu'ils ont perdu. Hein. Mais je voulais quand même dire quelque chose sur le fait du problème du déserteur et tout ça. Il faut dire que notre génération, quand nous étions gosses, nous avons vécu dans des après-guerres. Notre enfance, ça a été les après-guerres. Nos grands-parents, les grands-pères, tout ça, les oncles, avaient fait la guerre de 14-18. Pour eux, défendre le territoire, à l'époque, c'était normal de prendre l'uniforme pour défendre la patrie. Après, ça a été 39-40. Et après chaque guerre, on disait que c'était la dernière. On l'a faite, mais c'était la dernière. Et en fait, ça n'a jamais cessé, en fait. Hein. Mais les guerres comme la guerre d'Algérie, franchement, pour moi, c'était quelque chose d'inutile.
Enfin, cette chanson-là résume bien le drame des Européens d'Algérie qui ont été obligés de quitter, pour diverses raisons, de quitter l'Algérie pour venir en métropole. Et cette chanson résume bien, avec les paroles de cette chanson résument bien le drame de... Et c'est une chanson... Est-ce que je crois que Enrico Macias est revenu en France en 61-62, je crois, tout de suite après l'indépendance de l'Algérie, et c'est une chanson qu'il a tout de suite, qu'il a tout de suite composée, enfin je crois. Hein.
Oui. Je reviens effectivement sur cet épisode de la guerre d'Algérie, c'est la fin de la guerre d'Algérie d'ailleurs. Il faut s'imaginer ce qu'a été ce drame. Il y a eu plusieurs drames en Algérie, mais cette chanson d'Enrico Macias s'exprime sur ce drame qui a consisté à ce que les familles d'origine pied noir, comme on disait, hein, et pas nécessairement des gros colons. Hein, j'expliquais aux élèves que j'ai rencontrés précédemment que, à une question générale qui m'a été posée sur les contacts que j'avais pu avoir avec les populations algériennes. Moi, j'ai eu de très bons contacts avec des populations algériennes de souche. Hein, j'ai évoqué mes visites auprès du chef de village algérien qui était situé à proximité du camp où nous étions avec mon régiment. Mais j'ai également eu des contacts avec ces familles pieds-noirs qui étaient des familles d'origine modeste. Hein, et je dois vous dire que lorsque cette orchestration a débuté, ça m'a fait quelques frissons dans le dos parce qu'on a vécu ça. C'était pas le début de la télévision, mais par la télévision, on a vu arriver ces pauvres familles sans rien sur le dos, pratiquement, j'exagère à peine, ayant quitté leur village. Et la France, l'État français, n'a pas à se glorifier de ce qui s'est passé dans les derniers mois de la guerre d'Algérie. Le jour de l'indépendance, le 5 juillet 1962, il y a eu ce qu'on a appelé les massacres d'Oran, à savoir que sur la place principale d'Oran, je connais très bien Oran, hein, bon, c'est vieux maintenant, c'est dans le temps, ça s'éloigne, mais donc la foule algérienne était joyeuse, ce qui est tout à fait normal. Elle allait être indépendante, l'occupation française se terminait. Mais puis il y a eu un incident, un tir de feu, pour l'instant, on ne sait pas exactement comment c'est venu. Il y a une certaine thèse qui essaie de se développer, mais toujours est-il que la population algérienne qui manifestait sa joie ce jour-là à ce coup de feu qui a fait quelques dégâts s'est retourné contre la population européenne qui vivait encore dans le quartier européen d'Oran, et il y a eu des massacres de cette population pied-noir par des extrémistes algériens. Et ce type d'événement aurait pu être évité si le gouvernement français de l'époque avait pris la décision de faire en sorte que l'armée française ne reste pas inerte, l'arme au pied, devant ces événements. Donc, au même titre que l'État français n'a pas à s'enorgueillir d'avoir abandonné ces populations harkis qui avaient combattu pour la France et qui pour la plupart ont été éliminés par le FLN. Mais je ne veux pas non plus par ces quelques mots oublier toutes les exactions, les massacres qui ont pu être réalisés par l'armée française durant la guerre d'Algérie.
C'est comme vous voulez. C'est une très enrichissant, merci.